Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé-bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme chaque jour, il est évidemment dans ce studio avec moi, toujours très en forme, particulièrement le lundi j'ai remarqué. Oui. C'est le docteur Jimmy Mohamed évidemment.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au programme aujourd'hui, on va démarrer la semaine donc de manière sportive en plus, avec une émission dans laquelle on va parler claquage, crampes, courbatures, toutes ces petites et grosses blessures dont on peut tous souffrir un jour, même si on n'est pas un grand sportif. Donc comment éviter les blessures liées à la pratique du sport, comment s'y mettre au sport justement, hein, si vous avez tout arrêté depuis un an, et bien sûr comment se soigner si nécessaire. Pour nous expliquer tout cela, nous recevrons ici même le docteur Stéphane Cascua, il est médecin du sport. Ensuite, comme tous les lundis, vous l'attendez avec impatience, c'est la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous décrypter une tendance concernant la coloration des cheveux. Jimmy, tenez-vous bien, il va nous parler de la coloration végétale.
Oh là là.
Ça promet, hein, ça c'est vous intéresse, génial. J'en suis sûre. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous expliquera ce qui peut pousser certaines personnes à tromper leur conjoint alors que pour autant, tout se passe extrêmement bien dans leur couple.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question de Mao. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, Mélanie. Moi, je vous appelle parce que mon père joue sans arrêt à des jeux d'argent, que ce soit casino ou au tabac. Il est vraiment addict. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour l'aider et ça m'inquiète réellement. J'espère que vous pourrez me conseiller. Au revoir.
Alors pour vous éclairer Mao, nous avons interrogé pour vous le professeur Michel Lejoyeux. Il est chef du service d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de jouer de manière régulière à des jeux d'argent est une forme de dépendance. C'est tout à fait identifié dans les classifications médicales comme une dépendance. Donc on peut absolument l'aider. Et les structures d'addictologie, donc les services qui prennent en charge les personnes en situation de dépendance, accueillent celles et ceux qui ont des dépendances à un produit et celles et ceux qui ont une dépendance à un comportement. Donc oui, on peut l'aider et oui, on va l'aider à condition de ne pas le culpabiliser, de ne pas l'agresser et de reconnaître cette situation comme une forme de dépendance.
Voilà, c'était les explications du professeur Lejoyeux au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question comme tous les jours. Celle-ci, elle est pour vous. C'est la question de Jérôme. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. On n'arrête pas de me dire que les personnes obèses ou en surpoids ont des gros risques de faire une forme grave du Covid. Qu'est-ce qu'il en est pour les gens qui sont anorexiques? Ma fille l'est. Est-ce qu'elle doit se faire vacciner même si elle est jeune?
Alors Jimmy, effectivement, on a beaucoup insisté ces derniers temps sur la fragilité donc vis-à-vis du coronavirus des personnes en surpoids ou en situation d'obésité. Qu'en est-il des personnes, pour le coup, à l'inverse, très maigres, comme les personnes qui souffrent d'anorexie?
Alors, dans l'état actuel des connaissances, et sauf nouveaux variants, il n'y a pas de sur-risque si jamais vous êtes maigre ou si jamais vous avez de l'anorexie. En revanche, on peut imaginer que vous êtes probablement un peu plus fragile et on n'a aucune idée de la répercussion et de l'impact d'un Covid long qui peut exister même chez des jeunes. Donc à titre personnel, je ne jouerai pas à la roulette russe, je ne chercherai pas à savoir s'il y aura peut-être des effets indésirables de la maladie ou une forme grave. Et je pense que pour l'instant, la solution la plus raisonnable reste malgré tout la vaccination.
Il dit que sa fille donc est anorexique et jeune. Est-ce qu'elle peut, donc elle doit, hein, selon vous, se faire vacciner malgré tout? Parce qu'on ne sait pas quel âge elle a. Parfois, on est adolescent. Mais aujourd'hui, les adolescents peuvent, certains...
Alors, ils pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, ouais, sans critère de pathologie. Là, pour l'instant, on a
entre
réservé
12
simplement...
Et 17, hein, ça
exactement,
sera, voilà.
Entre 12 et 17 ans. Pour l'instant, on peut vacciner 16, 17 et 18 ans révolus. Les personnes qui ont des maladies graves, hein, des jeunes adolescents, sans l'autorisation des deux parents. Et à partir de demain, il faudra une autorisation parentale des deux parents signée avec la présence d'un des deux parents en centre de vaccination. Donc, on va rentrer dans une nouvelle phase de vaccination et on espère à ce moment-là vaincre enfin l'épidémie, car même si les chiffres s'améliorent, elle n'est pas terminée.
Alors on commence justement, hein, vous le précisiez à l'instant, à parler de vaccination des plus jeunes, voire même des enfants, parce que là vous avez dit les ados bientôt, donc 12-17 ans à partir du 15 juin. Les plus petits, est-ce qu'il va falloir, alors je vous demande votre avis personnel, peut-être on ne sait pas encore tout ce qui va se passer correctement, enfin tout à fait en France, mais il va falloir vacciner les plus jeunes selon vous?
Je pense qu'il va falloir en tout cas en discuter, ouais, pour augmenter l'immunité collective, puisque mine de rien, en vaccinant les enfants, on va protéger les plus anciens.
Et puis on sait qu'ils l'attrapent à 7 ans, à 8 ans, c'est possible.
Exactement.
Hein,
voilà. Et puis, il y a une donnée qui reste assez inquiétante, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni. Regardez, le variant indien, qu'on appelle le variant Delta désormais, eh bien, progresse. Et en Angleterre, ils avaient malgré tout 45% de la population vaccinée à deux doses. Et malgré cela, ils ont une recrudescence de nombre de cas avec un variant qui est désormais majoritaire. Ça veut dire que l'épidémie est loin d'être terminée. La vaccination d'aujourd'hui nous évitera l'épidémie de demain. Et j'aimerais juste vous rappeler un seul chiffre, c'est que le variant anglais, eh bien, il est 50% plus contagieux. Il y a un risque d'hospitalisation concentration 2,5 fois supérieure. Ouais. Et le vaccin ARN, que ce soit Pfizer ou Moderna, lorsque vous avez une dose, il est efficace à 30% simplement.
Ah ouais.
Et lorsque vous avez vos deux doses, il n'est pas aussi efficace qu'auparavant, il est efficace à 80%. C'est-à-dire que l'immunité collective, on en est encore très très loin. Et si on veut retrouver une vie normale, eh bien ça passe par pas 10 000 solutions. Ça par la chloroquine, c'est pas par l'ivermectine. C'est tout simplement par la vaccination qui est une chance. Et j'aimerais vous rappeler que de nombreux pays, notamment du tiers-monde, n'ont pas accès à cette vaccination. Donc il serait temps peut-être de se bouger un peu.
Chez les enfants, chez les jeunes, en tout cas ceux qu'on a vaccinés jusque-là, on a des données, c'est aussi bien toléré que chez les adultes.
Alors, d'une façon générale, la vaccination est très bien tolérée chez les enfants. C'est pour ça qu'on les vaccine dès le plus jeune âge, notamment pour des maladies qu'ils ne vont pas rencontrer immédiatement. Le vaccin contre l'hépatite B, on pourrait se dire, mais quel est l'intérêt de vacciner
un
enfant ?
Exactement. Pas de rapport sexuel, pas de trucs à risque.
Pour autant, on sait que deux choses. Un, la vaccination est très bien tolérée chez les enfants. Ils font moins d'effets secondaires que les autres, en dehors évidemment de petites températures durant 24-48 heures. Et puis, deuxième chose, ils ont un système immunitaire qui est plus performant. Vacciner des enfants, ça permet de participer à l'immunité collective et faire en sorte qu'on ne va pas contaminer les parents qui contamineront peut-être à leur tour des collègues ou papy et mamie. Donc, il faudra vraiment se poser la question, peser le pour et le contre et ne pas attendre d'être au pied du mur, car je vous rappelle qu'il faut deux doses plus 15 jours pour espérer avoir une bonne immunité. Donc il va falloir se réveiller
et jouer encore
une fois. Tout se joue maintenant et la jouer collective.
Merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions en santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Stéphane Cascua. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin du sport et avec vous, donc on va démarrer la semaine en bougeant, en parlant de toutes ces blessures qui peuvent nous tomber dessus quand on pratique une activité physique. Faire du sport, docteur, c'est bon pour la santé, mais c'est pas sans risque, malheureusement. Les blessures liées au sport, on parle pas évidemment ni de Roger Federer, ni de. Je vous ai dit, j'ai même pas cité un finaliste. Hein, je suis vraiment très, très bon en sport, ni de Kylian Mbappé, mais de sportifs de tout le monde, hein, on va dire. C'est très fréquent dans la population générale, des sportifs, même du dimanche, des blessures sportives.
Alors oui, notamment chez les coureurs. On va illustrer ce phénomène avec les coureurs qui sont 16 millions en France, de coureurs réguliers ou occasionnels. Et une statistique mentionne que 88% des coureurs modifieront ou arrêteront leur programme pour cause de blessure dans l'année.
Ah oui, c'est impressionnant.
Et déjà, je vous passe un petit message, c'est 66% chez les triathlètes, d'accord ? Alors que les triathlètes ont une charge de travail plus importante. Et dans cette stat, ils arrivent à faire d'autres disciplines. L'une des clés de la prévention, c'est ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Diversifier les disciplines pour multiplier les bénéfices et diviser les risques.
Alors docteur, j'ai appris que vous étiez le médecin du Paris Saint-Germain
durant
20 ans.
Oui, vous êtes fan, il faut le dire. Hein.
Donc là, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est super, ça passera. Vous avez le totem d'immunité, c'est encore plus fort que le code d'immunité à Koh-Lanta. Mais on va quand même vous poser quelques questions. Du coup, on se blesse souvent, mais c'est plutôt le bas du corps qui va prendre. En général, le petit doigt, on le laisse un peu tranquille, je crois.
Ça dépend des disciplines que vous pratiquez, bien évidemment. Donc la majorité des sports sollicitent au moins les membres inférieurs, mais les membres supérieurs sont mis à mal en natation, dans tous les sports de raquettes, dans tous les sports de lancer. Non, statistiquement, ils ne sont pas prédominants, mais à l'échelle d'une activité qui sollicite les membres supérieurs, ils sont omniprésents.
Pourquoi on se blesse généralement ? Est-ce que c'est la fatigue, le stress, les mauvaises chaussures ? Enfin, c'est quoi les raisons les plus fréquentes de blessures ?
Le plus souvent, c'est l'entraînement anarchique.
Ah ouais.
C'est-à-dire la marche d'escalier. On en fait trop. Voilà. Et typiquement, c'est la reprise pendant les vacances ou à la rentrée. Ça ne va pas. Il faut faire du sport. C'est dangereux. Être sportif, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que c'est la régularité, l'assiduité et la progressivité qui payent.
Et on se blesse pas toujours au même moment. J'ai l'impression que c'est souvent au tout début
ou
à la fin.
Mais c'est jamais. Même temps, vous pratiquez pas.
Donc. Je me blesse pas.
Mais bien sûr, oui.
Voilà, c'est
oui,
au tout début ou à la fin.
Parce que commencer, c'est déjà accroître la charge de travail. Donc le début, oui, bien sûr. Et on dit souvent qu'un sportif va faire une fracture de fatigue dans les 3 à 4 semaines qui initie sa reprise de la course à pied. Cet exemple, il était omniprésent lorsque les petits Français faisaient leur service militaire. Ils faisaient 3 semaines de classe, ils sortaient de la sédentarité, ils se mettaient à courir et à crapahuter. Et au bout de 3 semaines, qui correspond à un cycle SEU, qui correspond à la durée des classes, ils arrivaient dans mon bureau victimes de fractures de fatigue.
Quels sont les meilleurs sports, entre guillemets, pour éviter les blessures ? Celui de Jimmy, de ne pas en faire, évidemment, c'est le meilleur. Mais bon, j'imagine qu'il y a quand même des... Oui, le yoga, des choses comme ça, il n'y a pas de risque.
Non, au yoga, quand on en fait trop vite, moi, la plus grosse hernie discale que j'ai vue, que j'ai fait opérer très vite. Elle s'était produite au cours d'un cours de yoga.
Incroyable. Mais celui qui est le plus traumatique, on va dire, enfin celui où il y a le plus de blessures, vous avez cité le running, c'est très blessant.
Oui, mais n'empêche que c'est un sport d'endurance avec des impacts modérés et multiples. Mais les sports les moins traumatisants sont typiquement la natation et le vélo, par exemple, pour les impacts. Mais il faut savoir qu'il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que puisqu'on ne met pas son tissu locomoteur en contrainte, il ne s'adapte pas. Ah. Par exemple, les personnes qui cherchent à renforcer leur os, qui approchent de la ménopause ou qui sont ménopausées, elles n'auront aucun bénéfice à nager et aucun bénéfice à pédaler. Il y a des études qui montrent que les nageuses de haut niveau de 17 ans ont une densité osseuse inférieure à leurs copines sédentaires de la cour de l'école.
On a l'impression que la natation, c'est le sport effectivement tout doux qui fait de mal à
la Et même pour le dos, si on digresse déjà, pour le dos, c'est pas terrible parce qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est l'horizontalité. L'hypocrisie, c'est l'apesanteur. Non, non, la vie quotidienne, ça se produit sur deux jambes, de façon verticale et en charge. Ouais. Et d'ailleurs, tous les protocoles de reconditionnement de la colonne vertébrale qui ont validé leur efficacité ont exclu la pratique de la natation.
Alors, ça fait un an qu'on est quasiment tous sédentaires, à quelques exceptions près. Est-ce qu'il faut, à la reprise d'une activité physique, aller voir son médecin en fonction du sport qu'on décide de pratiquer, ou est-ce qu'on peut y aller là, mettre nos baskets et se mettre à courir ?
Alors, un avis expert est quand même le bienvenu, notamment pour individualiser le message. Il est bien évident que les 30 minutes de marche active par jour qu'on lance en pâture à la population, c'est bien, on peut commencer bien sûr sans certificat médical, mais c'est le début du commencement des prémices des bienfaits.
Ouais.
Voilà. On a des études qui montrent que on obtient l'idéal d'efficacité à environ 1000 calories par semaine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 3 fois 30 minutes à 1 heure par semaine, à une intensité modérée.
Être un peu essoufflé, quoi.
Voilà, c'est ça. On dit que à cette intensité-là, je peux parler, mais pas chanter.
D'accord.
Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'autre extrémité, à partir de 3500 kilocalories par semaine, c'est-à-dire une heure de sport par jour, on voit les bienfaits du sport, non pas disparaître, mais commencer à diminuer.
Donc c'est moyennement, ouais, c'est moyen, une bonne moyenne, voilà, mais pas trop non plus. Quoi,
c'est de 2 heures à 7 heures par semaine, grosso modo, pour la santé.
Bon, les repères sont clairs. Docteur Koskua, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, avec notre invité qui est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Stéphane Koskua. Vous êtes médecin du sport et donc avec vous, on propose aujourd'hui à nos auditeurs une mise au point sur les précautions pour que le sport ne nous fasse que du bien. Alors justement, on va voir comment les éviter, tous ces bobos du sport, pour prévenir déjà. Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce que l'échauffement, le fameux échauffement dont on parle tant, on dit toujours il faut s'échauffer, quelle que soit la pratique du sport qu'on va faire derrière. Moi, je le fais jamais, je dois avouer, mais ça sert vraiment à quelque chose. C'est important de s'échauffer. Et comment on s'échauffe ?
Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps. Une réponse pseudo-scientifique, en tout cas scientifique, et puis je vais vous la traduire dans les faits.
Ouais.
L'intensité, c'est l'activité d'intensité et d'activité cardiovasculaire, locomotrice et psychomotrice, d'intensité et de spécificité croissante, pour retrouver les caractéristiques de l'activité envisagée.
Bon, j'ai rien compris.
Mais
donc,
si, c'est simple. On prend tous les domaines et puis on essaye de se rapprocher de plus en plus du sport.
D'accord.
Et bien, c'est hyper simple. La course à pied, par exemple, ça consiste à déambuler, marcher vite, trottiner, courir. Voilà. Il n'y a pas d'étirement à faire. Hein, voilà. On se dérouille. Voilà. Le matin, si on va courir avant d'aller bosser, on essaye de faire traîner ça sur 10 à 15 minutes. Et puis le soir, puisqu'on a bénéficié finalement du dérouillage de la journée, ça peut durer 10 petites minutes. Mais c'est indispensable. Ça doit être progressif et spécifique, c'est-à-dire amené à l'activité prévue.
C'était très clair.
Est-ce qu'il faut s'étirer aussi, du coup ?
Eh bien, justement, j'ai exclu, tu vois, l'étirement de ce protocole. Les étirements, ils ont été largement débattus. L'étirement, ça adapte les tissus en les mettant en contrainte. Donc, tout est une question de curseur. Ça peut être adaptatif, mais ça peut être aussi illaisant. Donc, la notion d'étirement n'est pas intégrée à la notion d'échauffement. On va faire des étirements élastique, on dit balistique quand on a des gestes de grande amplitude. Vous voyez, les footballeurs, ils font plus du tout d'étirements passifs. Ils font des grands gestes de balancier qui ressemblent aux gestes de la frappe, par exemple. Donc, si étirement il y a, ce sont des étirements dynamiques et les étirements, ils sont nécessaires dans les sports qui incluent de grandes amplitudes gestuelles.
On entend dire que parfois certains se blessent parce qu'ils n'ont pas les bonnes chaussures pour courir, par exemple. C'est vrai que moi, j'avoue, je mets des chaussures, même les mêmes petites baskets de ville, servent à courir si j'ai besoin. Aïe, 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 je vous vois que vous n'avez pas.
Non, pas du tout. Non,
est-ce que des chaussures, c'est très important
pour
l'activité physique.
Non, au contraire, il y a des études qui semblent montrer qu'une chaussure peu confortable, en tout cas bas de gamme, ouais, est une chaussure qui ne va pas
des
engendrer
baskets
plus...
à 20 euros du supermarché, ça peut aller, ouais.
Oui, puisque maintenant, il y a ce qu'on appelle la mode du minimalisme, qui sont justement des chaussures très peu amortissantes, qui se révèlent bénéfiques parce qu'elles vont solliciter le mécanisme d'amortissement naturel du corps. Mmh. Voilà.
Donc pas besoin de mettre 200 euros.
Au paléolithique, on n'avait pas de Nike et on courait dans la forêt. Donc, est arrivée il y a quelques années la mode du minimalisme, qui était donc des semelles peu amortissantes, très proches du sol, qui ont quand même réduit pas mal de traumatismes, parce qu'il y avait plus d'amortisseurs, la cheville entrait en action, il y avait tout un effet de stabilisation dynamique, le membre inférieur se tordait moins qu'avec ces chaussures très amortissantes, qui dit amortissant, dit aussi un peu instable.
Mmh. Alors on va parler d'une blessure assez fréquente, l'entorse, on va prendre celle de cheville par exemple. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une entorse et comment est-ce qu'on la guérit? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments spécialement? Est-ce qu'on met du froid comme les footballeurs, on peut voir de temps en temps,
bombes,
ou de la
là,
glace,
ouais,
exactement.
La bombe magique.
La bombe magique, mais
alors un chiffre, puisque vous aimez les chiffres. Il y a 6000 entorses de cheville par jour en France.
Par jour.
C'est incroyable. C'est le trauma le plus banal. Comment ça? Qu'est-ce que c'est qu'une entorse? Une entorse, c'est une lésion d'un ligament. Un ligament, qu'est-ce que c'est? Un ligament, c'est une cordelette qui relie un os à un os et qui contrôle le mouvement de l'articulation. Lorsque le mouvement est trop ample, ce ligament est déchiré. Alors, il peut être soit distendu, soit dilacéré complètement. Et lorsqu'il est complètement rompu, sont déchirés aussi les petits vaisseaux sanguins qui le traversent. Et ça saigne. Et ça fait gonfler. Le gonflement rapide, c'est caractéristique d'un saignement. Alors, pour fermer les vaisseaux, c'est vrai qu'on met du froid. C'est-à-dire que quand vous avez chaud, vous êtes tout rouge. Quand on vous applique du froid, vous fermez vos vaisseaux. Donc, on met du froid pour réduire l'hémorragie. Et puis ensuite, on comprime. Et on draine depuis la pointe des orteils jusqu'au mollet. On dit glace, repos, élévation, compression. C'est le petit moyen mnémotechnique pour la stratégie à mettre en place à l'issue d'une entorse.
Alors, autre chose qui peut se déchirer, ce sont les muscles, les déchirures musculaires. Quand on dit j'ai une déchirure musculaire, ça veut vraiment dire que ça s'est déchiré comme du papier cadeau, quoi. Ça se déchire un muscle.
Alors oui, la déchirure, elle se fait toujours au même endroit. Elle se fait à la jonction myo-apo névrotique. Je vais expliquer.
Allez-y. Voilà.
En fait, le muscle, il est entouré d'un sac qu'on appelle l'aponévrose, qui rejoint le tendon. Le tendon, c'est la cordelette qui va jusqu'à l'os. Lorsque vous faites un geste qui freine, lorsque vous faites une réception de saut, par exemple, vous avez l'os qui part, le tendon qui part, les membranes qui partent et le muscle qui tire dans l'autre sens. Et la contrainte, elle est où? Elle est à la jonction entre les fibres qui se contractent et la membrane qui tire vers l'os. Ça s'appelle donc une lésion myo-apo-névrotique. Au début, ça suinte un peu comme une ampoule, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Et puis lorsque la membrane se déchire, c'est un claquage et ça saigne beaucoup. Et lorsque le muscle est complètement déchiré, ça s'appelle une rupture musculaire.
Bon, la petite déchirure, on va dire.
Hein, la petite déchirure, c'est l'élongation.
On la soigne comment, celle-là? Je fais quoi à la maison quand je rentre et que je me suis fait une déchirure?
Alors moi, j'aimerais bien placer là un petit truc un peu provocateur. Il faut arrêter de s'arrêter.
Ouais.
D'accord. Parce que si vous ne faites rien, votre muscle, il va cicatriser avec des fibres enchevêtrées dans tous les sens. Un peu comme une gerçure. Et quand vous allez le remettre en contrainte, paf, il va ressaigner. Non. Pour favoriser une bonne cicatrisation, il faut des contraintes modérées afin que les fibres cicatricielles s'orientent dans l'axe de ces contraintes. On parle de mécanisation tissulaire. Et très souvent, la règle de la non-douleur est bonne conseillère, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut faire. Et classiquement, si on s'est claqué en courant, parce qu'il y a des freinages, parce qu'il y a des réceptions de saut, à vélo, on aura pas mal.
Très bien. Docteur Koschko, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans ce rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Stéphane Kaskua. Vous êtes médecin du sport et justement pour vous nous aider aujourd'hui à rester en mouvement, à se remettre s'il le faut en mouvement, car vraiment c'est indispensable pour nous, pour rester en bonne santé, ça on le sait bien. On va continuer à parler de ces blessures musculaires que l'on peut éviter ou mieux soigner. On va parler à présent de la tendinite. C'est quoi précisément cette blessure? Alors bon, comme son nom l'indique, j'imagine que ça se passe au niveau d'un ou des tendons. Mais...
Oui, mais il faudrait expliquer ce qu'est un tendon. Un tendon, c'est une cordelette qui relie un muscle à un os et transmet la force de contraction de ce muscle. Là encore, le mécanisme de freinage est le plus agressif, le plus délétère. Parce que quand vous réceptionnez, vous freinez un mouvement. Tiens, on va prendre le tennisman. Lorsque le tennisman, il envoie très très fort sa raquette pour frapper la balle, il a son os qui part dans un sens, son humérus, l'os du bras, et puis il a les muscles de l'épaule qui tirent dans l'autre sens. Et entre, il y a la cordelette du tendon de la coiffe des rotateurs. Et là, ce tendon, il est écartelé et il est malmené. Les tendons, ils s'adaptent. Mais là encore, il faut du temps. Moi, j'aime bien dire que l'appareil locomoteur dit passif, celui qui ne se contracte pas, les tendons, les os, les ligaments, c'est blanc. C'est peu vascularisé. Alors qu'un muscle, c'est rouge, c'est plein de sang, ça s'adapte vite. Ça veut dire que sur le plan énergétique, sur le plan de la force, vous allez bosser beaucoup plus, vous allez progresser beaucoup plus vite que vous ne le ferez sur votre appareil locomoteur passif qui, lui, souffre d'une certaine inertie. Et c'est toujours cette distorsion des adaptations qui fait qu'au début de l'entraînement ou lorsqu'on augmente la charge de travail, on va se blesser. Toujours attendre l'adaptation du tendon, du ligament et de l'os et ne pas se laisser emballer par sa progression énergétique.
Du coup, on y va mollo, mais est-ce qu'il y a d'autres astuces peut-être pour essayer d'éviter une tendinite? Est-ce que du côté de l'hydratation, de la période de repos, est-ce qu'on peut améliorer ou éviter certaines tendinites?
Alors, je vais remettre une petite dose de l'entraînement croisé, c'est-à-dire que, en effet, vous progressez énergétiquement, et c'est très bien, et vous pouvez en profiter, mais un jour, vous allez faire de la course à pied, où vous allez freiner et solliciter votre tendon, le lendemain vous allez faire du vélo, et le vélo on fait que pousser, il n'y a pas de freinage, et vous allez continuer à brûler des calories sans malmener votre tendon. Donc allez vous balader, allez nager, allez en salle, faire de l'elliptique, l'elliptique ça ressemble à la course à pied, c'est un véritable exercice de gainage, donc variez vos disciplines, et votre tendon comme ça s'adaptera progressivement, et vous, vous continuerez à progresser.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les tendinites? En tout cas, vous aviez donc le croisé, ça on l'a compris. Finalement, le sport, c'est comme l'alimentation, il faut diversifier. Si
exactement.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils? Je ne sais pas. L'eau, vraiment,
oui,
c'est important.
L'hydratation,
ou pas
c'est. Ouais, c'est
allez, il fait
c'est
très chaud là depuis
c'est
quelques
une bouteille,
jours.
Alors, oui, c'est un peu vrai. Ouais. L'image qu'on aime donner, c'est qu'une éponge sèche, c'est quand même beaucoup moins souple qu'une éponge humide.
Bah oui.
Donc le tendon, il est plus malléable lorsqu'il est humide. Mais ça tient surtout de la notion de cristaux. Les cristaux, notamment d'acide urique, c'est que l'acide urique, il est dilué dans le sang. Lorsqu'on fait une crise de goutte, ils viennent se cristalliser, se concentrer, et ces espèces de petits cristaux viennent déchirer les fibres. Alors le grand classique, c'est la crise de goutte du gros orteil, mais chez le sportif, un peu en embonpoint, un peu senior, eh bien, ces petits cristaux d'acide urique, ils peuvent venir déchirer ou dilacérer le tendon d'Achille. Donc, et bien sûr, si on boit abondamment, eh bien on va diluer ces cristaux d'acide urique et on ne fera pas la micro-crise de goutte qui va favoriser la tendinite d'Achille.
Les beaux jours sont en train d'arriver, il fait chaud, plus de 30 degrés. Est-ce que vous avez des conseils particuliers pour faire du sport en cette période de chaleur? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des risques de blessures particulières liées aux fortes températures?
Alors, pour s'entraîner de façon adaptée à la chaleur, le grand classique, c'est quand même de s'entraîner le matin. D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, les études sociologiques montrent que l'entraînement du matin passe mieux et plus vecteur d'assiduité que l'entraînement du soir. Donc, profitez de la fraîcheur, calez dans votre agenda, ritualisez. Il y a des études qui montrent que la ritualisation, elle est difficile, 6 semaines. Et puis ensuite, on a une espèce de petite addiction qui va s'appeler une bonne habitude et on va avoir besoin de ce petit rituel, de cette petite routine. Donc, entraînez-vous le matin, ça va vous éviter de décaler votre entraînement jusqu'à l'annuler le soir venu. D'accord?
Oui.
Oui, et on s'habille en blanc.
Ah, oui.
Et
oui.
On s'habille en blanc, et puis on met une casquette, et puis on se mouille. Très important. Allez, un petit message. La sueur, transpirer, ça ne refroidit pas. Ce qui refroidit, c'est d'évaporer la sueur qu'on a sécrétée au contact de la chaleur de notre corps. Donc, quand on s'arrose, on remplace la sueur. Et on a le même effet. C'est-à-dire que l'eau qu'on va déposer sur notre corps eh bien, va s'évaporer à la faveur de la chaleur de notre corps et va réduire notre propre température.
Bon, alors on est bien chaud, on est bien hydraté grâce à vous, on a compris. Le béaba, on va dire, pour que ça se passe bien. Imaginons, je viens de m'y remettre, eh bien, j'ai des courbatures, ça peut arriver à tout le monde, les courbatures. Comment on les explique, ces courbatures? Est-ce que c'est bien d'avoir des courbatures? Est-ce qu'on retourne faire du sport sur des courbatures? Expliquez-nous tout ça.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une courbature? Une courbature, c'est une espèce de claquage microscopique. C'est-à-dire que je vous expliqué que les membranes partaient dans un sens, que le muscle tirait dans l'autre. Eh bien, lorsqu'on a beaucoup couru, lorsqu'on a beaucoup fait de randonnée, notamment en descente, eh bien, les membranes sont parties dans un sens, les fibres ont tiré dans l'autre. Et il y a de multiples petites dilacérations au point de jonction. Ce qui fait mal, vous l'avez remarqué, ce n'est pas la lésion en tant que telle, mais le processus de nettoyage qui s'enclenche, qui s'appelle l'inflammation. C'est pour ça qu'on a mal 2 jours après. Alors, on ne fait pas d'étirement, Parce que les étirements, bah, ça reproduit exactement la même chose que la contraction excentrique. Ça met les membranes en sens opposé aux muscles et ça aggrave les lésions. On peut faire des activités de vascularisation, c'est-à-dire on va apporter du sang, de l'oxygène, des nutriments, avec des activités où justement il n'y a pas de freinage. On peut aller pédaler en douceur. Le vélo électrique est à la mode. Donc en montagne cet été, vous pouvez faire de la rando. Si vous avez des courbatures à l'issue de la rando, bah, vous louez un vélo électrique et vous allez vous balader le lendemain.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Casquia, d'avoir répondu à nos questions.
C'était génial,
on va vous réinviter, hein, sûrement, parce que là, vraiment, il y a encore plein de choses à dire. Merci beaucoup. Grâce à vous, on va pouvoir se remettre en mouvement sans danger. Merci encore, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, soignons notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque, comme tous les lundis. Cette semaine, Benjamin, vous allez nous parler d'une tendance, les colorations végétales.
Ah oui, alors c'est pas nouveau. Hein. Si on remonte 2000 ans en arrière, les femmes utilisaient déjà les plantes pour se colorer les cheveux, notamment en Inde. Et c'est vrai, ça redevient à la mode. Beaucoup de salons de coiffure proposent aujourd'hui des colorations végétales. Et comme le dit Simon Hassoun, le cofondateur de BioCoiff, cette tendance s'explique par cette volonté de retour à la nature.
Aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience de la part des consommateurs. Prise de conscience qui a d'abord commencé dans l'alimentaire. Souvenez-vous, il y a quelques années, avec certaines crises qui ont fait qu'aujourd'hui, les consommateurs font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et bien aujourd'hui, ça touche la cosmétique. Il y a un vrai changement du mode de consommation, avec une attention particulière aux ingrédients et un retour à la nature, au basique. Il y a vraiment un ras-le-bol des produits industriels. Et la coloration végétale, bah, c'est le contraire de tout ça.
Mais du coup, Benjamin, qu'est-ce qu'on fait? On va chez Truffaut et on se met des plantes sur la tête, c'est ça, en fait?
Ça se mépris. Alors, en fait, on va mélanger de la poudre de plantes avec de l'eau chaude que l'on va appliquer sur les cheveux et qui va les colorer. Donc, c'est la coloration végétale qui va venir se poser sur le cheveu, qui va juste l'envelopper, ce qui est l'opposé de la coloration traditionnelle, comme l'explique Céline Herbeau. Elle est responsable pour la marque Les Couleurs de Jeanne.
La coloration chimique, elle va agir à l'intérieur du cheveu. Il y a plusieurs étapes. On est obligé d'oxyder, en fait, pour ouvrir les écailles. Puis, on va intégrer des ingrédients pour supprimer les pigments naturels du cheveu, pour ensuite recolorer ensuite la mélanine. Et enfin, il faut refermer les écailles. Donc vous imaginez, ça vient fragiliser complètement le cheveu. Ça multiplie en fait à chaque fois les étapes nécessaires et d'agression du cheveu quand on est sur de la coloration chimique.
Et pas besoin d'attendre plus longtemps que la coloration végétale, hein, puisque le temps de pose est le même, c'est-à-dire entre 30 minutes et 1h30.
Mais pourquoi c'est mieux? Quel est l'intérêt d'utiliser la coloration végétale, Benjamin?
Alors il y a plusieurs avantages, Mélanie. Le premier, c'est qu'il n'y a pas d'actifs agressifs comme l'ammoniac, donc moins d'irritation et moins d'allergies. Et contrairement aux colorations chimiques, qui elles vont tout colorer, hein, comme un casque, là avec le végétal, on a un effet plus naturel. Les explications de Céline Herbeau.
La coloration végétale va venir se caler en fonction des nuances que vous avez déjà naturellement dans vos cheveux. C'est-à-dire que si vous avez un peu de cheveux blancs, un peu de cheveux gris, la teinte qui aura été choisie sera forcément un petit peu plus claire dans son résultat par rapport au fait que, par exemple, si vous avez les cheveux châtains, l'intensité sera plus importante. Donc, on aura un effet de balayage un petit peu naturel dans la chevelure avec de la coloration végétale.
Et puis, qui dit coloration végétale dit aucun ingrédient chimique d'eau, qui a un respect de l'environnement, puisque dans le lavabo, eh bien, nous coulerons que de l'eau et des plantes.
Est-ce qu'on peut avoir toutes les couleurs, Benjamin, avec le végétal? Est-ce que je peux me colorer en blonde platine?
Hélas, ah oui. Non, c'est l'inconvénient, et ça vous irait pas, de la coloration végétale.
Ça, c'est un avis personnel. Hein.
Le choix est limité. Alors, je vous rassure, on peut quand même retrouver les grandes tendances. Pour du blond doré comme moi, on va utiliser de la camomille, du curcuma et de la rhubarbe. Pour copier votre chevelure, Mélanie, si on va se servir du henné, qui est la plante la plus utilisée en coloration végétale. Et puis, si on veut du brun un peu fat comme Jimmy, là, il faudra piocher dans la poudre d'amla. Là, c'est une plante d'Inde qui donne ce côté sombre, foncé. Et à ma grande déception avec la coloration végétale, c'est qu'il n'est pas possible d'éclaircir le cheveu, comme l'explique Céline Herbeau.
Tout simplement parce que la coloration végétale vient se poser sur le cheveu. Donc, c'est comme en peinture. Si vous avez un tableau noir et que vous rajoutez une couleur plus claire, le noir va rester dominant. La coloration chimique le permet parce qu'elle supprime la coloration de notre cheveu, en fait. Donc, la coloration végétale ne peut pas éclaircir. Le mélange qui sera d'une couleur, par exemple blond, ne prendra pas sur un cheveu qui lui-même est brun. On ne verra pas ces notes blondes. Le brun est beaucoup plus fort que le blond.
Et enfin, l'intensité de la couleur va durer aussi longtemps qu'une coloration chimique, à savoir 5 à 6 semaines.
Merci beaucoup Benjamin, c'est très clair.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Mathieu. Il a 39 ans et il nous écrit « Je suis mariée depuis 12 ans et j'ai deux enfants. J'ai trompé mon épouse avec une collègue qui a 10 ans de moins que moi pendant quelques mois alors que je n'étais pas amoureux de cette femme et que tout va bien avec mon épouse. Ma femme l'a appris. On veut continuer ensemble mais elle veut savoir pourquoi je l'ai trompée. Le problème, c'est que je ne trouve pas d'explication. Peut-on tromper son conjoint sans raison ?» Une question un peu longue, hein, mais on va y répondre, Catherine.
C'est normal, parce que c'est complexe.
Bah oui, c'est complexe.
On ne peut pas toujours poser des questions au sujet verbe complément. Donc
c'est fréquent comme ça de tromper sans raison.
Alors, sans raison, si on parle du point de vue de ce qui est raisonnable, c'est évidemment que c'est assez fréquent de faire des choses parce qu'on les fait, on les agit de façon pulsionnelle, sans trop savoir pourquoi et sans trop mesurer les conséquences. C'est pour ça que souvent, on se prend les pieds dans le tapis, évidemment.
Mais une erreur, une fois, je veux bien, mais là, il dit une relation qui a quand même duré quelques mois. Donc, une erreur, on ne reproduit pas plusieurs fois, en général,
oui,
si c'est pulsionnel. Quoi.
Mais c'est pulsionnel au départ, ouais. Et puis c'est toujours la pulsion de désir qui s'exprime, la découverte, le fait d'avoir peut-être envie de regrignoter un peu de sa jeunesse, puisqu'il a 39 ans, il va atteindre ses 40 ans.
Donc,
du coup, une envie de trouver encore de l'élan, bien qu'il soit confortablement installé dans sa relation, en plus, qui plus est de famille, mais avec quelque chose d'assez irrésistible. Ceci étant, la sexualité, c'est quelque chose dont on doit s'approprier. On peut avoir des pulsions sexuelles, mais nous ne sommes pas des bêtes fauves. Nous devons arbitrer de ce que nous faisons, de ce que ça porte, ça amène de conséquences pour soi et pour les autres. Et évidemment que ça, c'est toute la difficulté. Et on comprend bien que sa femme ait besoin de savoir, sinon elle ne sait pas dans quoi elle s'engage avec lui.
Il précise que sa collègue avec qui il a trompé sa femme a 10 ans de moins. Est-ce que ça a une importance de le signaler, qu'elle ait 10 ans de moins, le même âge ou 10 ans de plus que lui?
Mais qu'est-ce que ça change,
c'est
au fond?
On s'en fiche, non, l'âge n'est pas...
En fait, c'est ça qui est intéressant en psy, en général. Si les gens précisent des choses qui n'apportent, j'allais dire, à l'équation, finalement pas grand-chose en apparence, c'est qu'ils attirent l'attention sur quelque chose. D'où ma réponse à Mélanie juste avant, de dire que peut-être c'est une angoisse de vieillir, de passer le cap des 40 ans, qui fait qu'il va voir du côté de la jeunesse, de sa propre jeunesse, auprès d'une jeunesse. Ceci étant, ça n'a pas plus d'importance que ça, en tant que telle. Qu'elle ait 10 ans de moins ou 10 ans de plus, surtout dans cette tranche d'âge, ça ne fait pas
grande
différence.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'on va lui chercher une excuse en disant il cherche sa jeunesse, bon, il a quand même mis son zizi dans le vagin de quelqu'un d'autre, donc quoi, peu importe qu'il ait cherché sa jeunesse ou pas, il a juste trompé sa femme.
Non, ouais. Mais vous avez raison,
c'est
Jimmy.
Une pulsion sexuelle, il a voulu juste...
Pragmatique, hein, Jimmy.
Vous avez raison, mais évidemment qu'on ne peut pas parler que d'un point de vue seulement technique. Bien sûr que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coït, oui, il y a eu une relation sexuelle, oui, il y a eu une tromperie.
Il y en a même eu plusieurs, mais, je pense,
si ça a duré quelques mois. Mais la question de l'émotionnel est une question qu'on ne peut pas nier. Et l'émotionnel de soi par rapport à soi, hein, c'est-à-dire de ses propres peurs de vieillissement, de ses doutes quant à soi, font qu'on fait des choses qui viennent alimenter et nourrir un peu plus que simplement tromper sa femme ou coucher avec une fille. C'est aussi qu'est-ce qui fait que, je ne sais pas, il serait allé vers une femme qui soit, il précise qu'elle soit rousse, et on pourrait se dire, mais pourquoi précise-t-il ça? C'est donc qu'il faut aller essayer de comprendre pourquoi roux
est un
lieu.
C'est l'âge qui vous intrigue le plus en fait dans cette question. C'est s'il le précise, c'est qu'il s'apprête à franchir un cap lui-même dès 40 ans qui doit l'angoisser.
D'âge, mais ça ne parle pas d'elle, ça
c'est
parle
ça
de
la
lui.
Raison, alors ça peut être ça la raison, la peur de vieillir. On trompe sa femme parce qu'on a peur de vieillir.
On a besoin de voir qu'on est toujours actif, qu'on n'est pas embarqué dans quelque chose qui va donc de fait s'éteindre, mourir. Et on a besoin de recréer du neuf sans pour autant donner de la valeur affective. Et c'est pour ça qu'il est perdu, parce qu'il voit bien qu'il n'a pas de valeur affective, il voit bien qu'il n'est pas amoureux de cette femme. Mais il y a quelque chose qui fait que malgré tout, il a non seulement passé le cap, mais en plus récidivé, et puis s'est fait prendre la main dans le sac,
Elle
pardonne, mais parce que aussi, je crois qu'il faut savoir réfléchir, c'est pas de la lâcheté de pardonner, ou c'est pas de la grandeur d'âme, c'est qu'il y a des valeurs parfois qui méritent qu'on y réfléchisse, sérieusement. On ne balance pas tout parce qu'on est simplement blessé. On peut regarder ce qu'on peut reconstruire. Et elle en a besoin. Et il doit essayer de comprendre. Mon explication est peut-être la bonne ou pas. En tout cas, il doit la réfléchir parce qu'elle a besoin de savoir à quoi elle s'engage elle-même avec lui.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils très clairs comme toujours. Et donc à demain, merci de nous avoir suivis. Tout de suite place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. De grands reporters. Comme voilà, des femmes qui sont sur le terrain. André Violis, dont on a oublié le nom alors qu'elle était la complice, si je puis dire, d'Albert Londres. Martha Gellhorn aussi, qui n'avait pas froid aux yeux. Et vous, Mathieu, vous avez choisi une journaliste plus contemporaine, vivante en tout cas. Et
carrément vivante, c'est Florence Obna, Stéphane, qui est un peu notre exemple à tous dans ce métier.
Hein. Elle est l'honneur de notre métier.
Exactement.
Très chouette programme, on sera à l'écoute, bien sûr, comme tous les jours. Et vous aussi, restez sur Europe 1.